Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
La sauge, elle fait partie de ces microcosmos, ces plaisirs minuscules que l'on peut cultiver sur un rebord de fenêtre ou un coin de terrasse.
Sachez-le, la sauge ne se lave pas, il suffit juste de l'épousseter. Moi j'adore cette herbe, mais elle ne se mange pas crue, elle ne se mange que cuite.
Il vous reste 3 feuilles de sauge, vous faites un petit beurre à la sauge. Très simple à réaliser, qu'on peut tartiner sur du pain ou alors tout simplement glisser dans des pâtes.
Oggi ho preparato il saltimbocca alla romana.
Et donc on met l'escalope du côté de la sauge, elle doit parfumer le beurre en fait.
On peut faire autre chose avec, des beignets de sauge. C'est parti.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Qui a la sauge dans son jardin ne connaît pas le médecin, ça c'est pour le dicton populaire. Côté médecine douce en effet, la sauge fait très fort, mais en cuisine alors, eh bien là on se gratte un peu la tête et pourtant on va vous montrer comment, de la Provence à l'Italie, la sauge diffuse dans les casseroles avec un certain talent son parfum frais et camphré. Sauge, la plante qui sauve en cuisine comme au potager, on en parle avec nos deux invité du jour. Nous sommes en direct en ce dimanche. Côté cuisine, nous accueillons Alessandra Pierini. Bonjour.
Bonjour à tous.
Les auditeurs vous connaissent bien évidemment, vous intervenez très souvent à ce micro. Vous êtes la spécialiste de l'Italie dans la bande dont on va déguster. Et vous venez de signer ce petit livre aux éditions de l'Épure, La sauge, 10 façons de la préparer. Vous avez compté le nombre de titres que vous avez signés dans cette collection, Alessandra?
11.
Oula, c'est le 11e.
C'est le 11e, celui-ci, avec, dans la collection des 10 façons.
Des 10 façons, absolument, édition de l'Épure, avec une couverture, logiquement, couleur
sauge.
Couleur sauge, donc voilà, une espèce de vert d'eau qui tire un peu sur le jaune. Voilà, c'est la couleur de la sauge. Et vous allez nous montrer en direct l'étendue de votre talent sur la plaque de cuisson dont on va déguster. Un petit indice.
Ça va être des feuilles croustillantes pour l'apéritif.
Ouh là là, vous allez voir ça, on va saliver. Côté potager, on est ravis d'accueillir Xavier Mathias. Bonjour.
Bonjour.
Notre pote du potager, formateur en maraîchage, auteur de très nombreux livres sur les plantes potagères. La sauge, c'est un monde à part, m'avez-vous dit en préparant cette émission.
Ah oui, parce qu'on dit la sauge, on devrait dire les sauges, en fait, puisqu'il s'agit de 900 espèces. Malgré tout, excusez du peu, c'est quand même énorme, les sauges.
Et grâce à Xavier Mathias, le studio 611 de la Maison de la Radio s'est transformé en véritable jungle. C'est tout à fait impressionnant. Il y a même des fleurs, il n'y a pas que des feuilles. Vous allez nous en parler dans un instant. Également avec nous en ce dimanche, notre libraire gourmande, Déborah Dupont. Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Mais ça va bien.
Sauge aussi, hein?
Sauge aussi, mais je suis allée chercher ma cuisinière irlandaise préférée, Trish de Seine à la rescousse.
Voilà, il n'y a pas que l'Italie et la Provence au menu dont on va déguster. Et si vous avez des questions ou des remarques à la maison sur la sauge, vous avez deux options pour réagir en direct dans cette émission. Envoyez-nous un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien cliquez sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Pour accéder à tous les contenus de notre émission, nos podcasts, nos recettes, nos infos pratiques et nos meilleures adresses, le chemin est tout tracé. franceinter.fr, à la page on va déguster. Juste avant de cultiver et de cuisiner la sauge, on va parler d'un panettone qui détonne.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Il est au moment de vous révéler celui qui remporte la place de meilleur,
la médaille d'or, la première place
du panettone traditionnel lors de cette première édition du championnat de France du panettone. C'est
Thomas Teffry Chambellan de Noyers-sur-Jambon.
Donc je suis Thomas Teffry Chambellan, je dirige l'école internationale de boulangerie et passionné de panettone depuis des années. Donc le panettone gagnant aujourd'hui sur le championnat de France, c'est un panettone très engagé avec des pétrissages très techniques, un joli bassinage à la crème en fin de travail et des fruits confits maison qui me permettent d'assembler des saveurs assez exceptionnelles d'orange et de cédra avec une sucrosité très maîtrisée, pas trop sucrée pour garder vraiment l'entièreté du fruit dans le panettone final. Ça fait chaud au cœur, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, beaucoup de temps passé. Donc voilà, une pensée tout de suite pour mes équipes à l'école et pour la famille aussi.
Hier samedi, c'était la fête à la mairie du 9e arrondissement de Paris. Plusieurs milliers de personnes sont venus assister à la première édition du championnat de France du Panettone que nous avons organisé ensemble, Alessandra Pirini, avec nos petits camarades Stéphane Solier, Ilaria Brunetti et Anna Maréchal. Donc la première édition avait lieu hier, d'ailleurs avec un jury franco-italien prestigieux, composé de chefs, de pâtissiers, de journalistes gastronomiques. On a départagé de très nombreux panettones venus de toute la France. Il y avait notamment aussi le champion italien actuel, champion du monde.
Champion du monde, tout du à panettone. Fait, qui est Massimo Ferrante, de la pâtisserie Ferrante qui est à Gênes.
C'est ça. Et beaucoup de pâtissiers professionnels et amateurs se sont lancés dans la compétition. On a reçu des panettones vraiment de toute la France. Preuve que le panettone est vraiment devenu une affaire française.
Absolument. Oui, c'est vrai que les pâtissiers pâtissiers français, ils ont donné leur savoir-faire à cette mise au service, à cette tradition italienne qu'on a vraiment, nous les Italiens, très très cher à notre cœur.
Et surtout que c'est une recette qui a ses traditions, son savoir-faire. Déconne pas, j'ai envie de dire, avec le panettone, cette tradition milanaise.
Absolument, le panettone, une tradition milanaise. Déjà, nous, c'est notre gâteau des fêtes de fin d'année. On ne le consomme que pendant la période de Noël, bien sûr, jusqu'au jour de l'an. Et les pâtissiers commencent, et les boulangers aussi, s'y mettent tous ceux qui travaillent, en fait, vraiment le levain naturel. Parce que le panettone, c'est un vrai défi. C'est surtout quelque chose qu'il faut faire pendant très longtemps. C'est un pétrissage lent et on utilise surtout l'ingrédient qui va permettre de faire ce gâteau comme il faut, qui n'est pas absolument une brioche, attention, comme on croit. C'est ce levain naturel qu'on mélange donc de la farine, du beurre, du sucre, des jaunes d'œufs et ensuite avec du raisin et des fruits confits qui vont parfumer cette pâte. En fait, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients pour le panettone, mais c'est le processus de fabrication qui est lent et long, où on alterne des pousses très longues de la pâte jusqu'à une cuisson lente et en fait un séchage de plus de 12 heures. Il faut bien 3 jours pour faire un véritable panettone.
Et on rappelle le nom du lauréat dans la catégorie panettone traditionnel, incroyable panettone, qu'on a d'ailleurs sur le plateau dont on va déguster.
Parfumé à côté de nous, et c'est bien Thomas Teffry Chambellan qui est fondateur de l'école internationale de boulangerie qui est à Noyers-sur-Jabron dans les Alpes de Haute-Provence, et qui a écrit également aussi un livre.
Déborah Dupont, ça vous dit quelque chose, effectivement, Thomas Teffry Chambellan.
C'est le livre qui est spécialiste vraiment du sujet, qui s'appelle Panettone et viennoiserie au levain, un livre à 69 € pour les professionnels, parce que Alessandra l'a bien dit, c'est pas une recette qu'on va pouvoir faire à la maison, faut être honnête. On est vraiment sur une technicité, sur des durées de pousse, sur un processus. Faut pas se lancer à la maison, on va galvauder la recette et ça n'aura rien à voir.
Et ce panettone est d'ailleurs en vente, dans l'école internationale de boulangerie, dans les Alpes de Haute-Provence. Le panettone gagnant, vous en avait pensé quoi, Xavier Mathias? Ça vous plaît ou pas, cette espèce de coussin comestible?
Je me sens honteux avec mes sauges parce qu'il a un tel parfum, mais il les recouvre vraiment, c'est tout à fait étonnant.
Il faudrait penser à un panettone à la sauge.
J'ai pensé effectivement hier, tiens, dis donc.
Et on cite aussi quand même, il y a deux autres lauréats pour la catégorie du panettone traditionnel.
Absolument, le deuxième prix, c'était Raphaël Jubert de Kroll en Isère, qui a la boulangerie Le Pain de Saint-Hugon. Et ensuite, à la troisième place, Christophe Louis, que le pâtissier que les Parisiens connaissent très bien. Et donc, on est très bien son panettone aussi.
Quel arrondissement, Christophe Louis? Il est juste dans le cinquième.
Et lui, il distribue, en fait, son panettone est vendu surtout dans les boutiques food de pâtisserie.
Absolument. Et on avait également une catégorie panettone créatif. Là, on l'a également. Alors là, on est dans un autre univers aromatique. Parce que le panettone créatif, c'était une carte blanche. On pouvait créer des choses avec des associations de saveurs ou des ingrédients complètement libres. Et en l'occurrence, c'est un sacré panettone fruité qu'il a emporté dans la catégorie créatif.
Et c'est donc le panettone au citron de menton du pâtissier Daisuke Fukuda, qui est le boulanger de Mitron Bakery, qui est un menton.
C'est ça, voilà, tout le palmarès de ce premier championnat de France du panettone sont à retrouver sur le site championnatdefrancedupanettone.com et bien entendu sur franceinter.fr à la page on va déguster. On a eu pas mal de remarques sur les réseaux sociaux depuis hier en nous expliquant quand même que le panettone était une affaire d'hommes. Et c'est vrai que pour le coup,
C'est vrai qu'il y a, beaucoup, beaucoup d'hommes, même on l'a vu dans la compétition, mais il faut quand même dire qu'on avait une femme et qui est Séverine Coulson, qui a la boulangerie Secret Gourmand à Montmartre dans les Hautes-Alpes et qui a fait un délicieux panettone au chocolat.
Voilà pour la prochaine édition du championnat de France de panettone dans 2 ans. Espérons qu'il y ait évidemment beaucoup plus de talent au féminin qui se lance dans ce défi technique. Et rappelons aussi Alessandra Pirini, que vous êtes l'auteur de panettone, bah justement, tiens, dans la même collection, 10 façons de le préparer aux éditions de l'Épure. Donc le panettone, puisque un panettone, on se l'offre à Noël. Et puis comme c'est un gros truc bien molletonné qui arrive à la maison, parfois il en reste un peu. Et le panettone rassis, on ne le jette pas, mais on le recycle à travers de délicieuses recettes. Du panettone, on va passer dans un instant à la sauge, une plante aromatique à très fort tempérament. Derrière la console, Laurent Thomas, Jenab Sangaré, Marion Philippe et Nadia Chougui, Djoubaka à la programmation musicale, et pour nous mettre dans l'ambiance, c'est Andrea Laszlo de Simone qui nous accompagne en ce dimanche avec le titre Vivo, Buon Appetito sur France Inter.
Ma non ho scelta né un motivo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione. Mi conviene cogliere il tempo che rimane prima che smetta di bruciare dentro al tuo cuore anche il più piccolo ideale che sta tremando di terrore. Breve pure stretta, ma la tua mente è una gran sarta che cuce in fretta il tempo di una sigaretta. Che fa bene a chi alla luna maledetta e dalla vita non si aspetta che sia perfetta, si gode quello che gli spetta, perché si muore troppo in fretta.
On va déguster.
Le parfum de la sauge a toujours fait partie de mes repas depuis la plus tendre enfance. De la focaccia du petit déjeuner aux feuilles frites en guise de chips ou séchées et réduites en poudre pour finir dans la pâte des tagliatelles fraîches. Pour Pâques, les tiges récupérées de la taille des buissons après l'hiver étaient hachées pour accompagner l'agneau cuit au four dans une sauce à base d'ail, d'huile, de vin et de vinaigre. Et les cailles rôties en cocotte que nous avions le droit de manger avec les mains. Plaisir absolu entre transgression et délectation. Le ventre garni de fraîches feuilles de sauge, elles mijotaient dans leur jus pour nous régaler de leur peau caramélisée croustillante et de leur chair parfumée et délicatement fondante. L'été, c'était souvent saltimbocca, saute en bouche. Déjà le nom nous préparait aux agapes. Une belle feuille de sauge trône sur une tranche de prosciutto qui couvre une fine escalope de veau et mijote dans un beurre enveloppant. Et réveillée par un vigoureux vin blanc, saute dans la bouche des gourmands. Que Dieu sauve la sauge.
Que Dieu sauve la sauge. C'était un extrait de la sauge, lu en direct par Alessandra Pierini. 10 façons de la préparer aux éditions de L'Épure. Vous y racontez votre relation intime et gourmande avec cette plante aromatique. On va voir dans un instant avec l'ami Xavier Mathias que la sauge est populaire en France depuis le Moyen-Âge, mais plutôt pour des raisons médicinales. On a un peu le sentiment quand même, Alessandra Pierini, sans faire trop pencher la balance du côté de l'Italie, que les Italiens ont un peu mieux compris que les Français l'intérêt gustatif de la sauge.
C'est bien vrai. Et en fait, on utilise énormément de sauge. Bon, moi, j'ai vécu aussi beaucoup dans le sud de la France. Donc, c'est vrai que la cuisine provençale utilise pas mal la sauge, surtout dans le bouquet des mélangés d'herbes de Provence.
Tout à fait.
Et en plus, dans le gros souper de la veille de Noël, on prépare cette recette qui s'appelle l'aigo bulido.
C'est ça.
C'est l'eau bouillie. C'est une soupe très, très légère.
Avec de l'ail, très digeste.
Avec de l'ail, bien sûr, et aussi pas mal de sauge. L'ail bouilli est beaucoup plus digeste. Et c'est surtout pour se préparer au gros repas de Noël.
Et puis en Provence, aussi, préparer l'estomac.
Préparer l'estomac, bien sûr.
C'est ça. Et en Provence, on utilise aussi beaucoup la sauge pour les rôtissages, notamment pour les viandes
et le gibier. Pour les viandes, le gibier, le mouton également. Et aussi, en Provence, on dit absolument qu'il faut les ramasser à l'aube de la Saint-Jean, qui serait le 24 juin.
Qu'est-ce qu'en pense notre ami Xavier Mathias de ces dates? Souvent, moi j'adore ça, cette culture populaire qui consiste à dire cueillez plutôt telle plante à tel moment, ça a quand même un sens, même si ça repose sur des observations empiriques.
Oui, c'est-à-dire que par rapport au cycle de la sauge, son cycle de fleurissement, effectivement le 24 juin est une très bonne date. Et puis pour nous, jardiniers ou maraîchers, la Saint-Jean c'est vraiment une date clé. Parce que après la Saint-Jean, les jours décroissent, on est sur des jours croissants avant. On arrive au point culminant et après voilà les jours raccourcissent. Et même, moi je trouve qu'ils raccourcissent très vite en fait, à partir de fin juillet. Voilà, on a déjà l'impression que l'automne arrive en général, surtout cette année. Donc moi ça me semble être une très bonne date, une très belle idée. On peut se dire que les Républicains ils étaient un peu plus tardifs. Ils étaient le 14 juillet parce D'accord. que la sauge c'est quand même la plante du 14 juillet républicain. Donc on a une grande ancienneté, effectivement, pendant l'Antiquité, on pourra revenir dessus, mais elle est reconnue aussi par une république plus, entre guillemets, laïque.
Plante officielle de la République française et la sauge copine officielle de la cucina italiana. Hein.
Oui, nous, dans la cucina italiana, on l'utilise dans des recettes emblématiques qui sont, par exemple, comme on disait dans la lecture, le saltimbocca alla romana, qui sont ces fine tranche de veau avec une fine tranche de jambon et de la sauge qu'on fait cuire dans du beurre. Et ensuite, il y a les pizzoccheri de la Valtellina. C'est une recette des Alpes du nord de l'Italie. Ce sont des pâtes de sarrasin. Absolument, qu'on assaisonne avec beaucoup de beurre, sauge, mais aussi du chou et du fromage.
C'est ça.
Le burro e salvia. Beurre et sauge.
On va en parler dans un instant. Ça va être la surprise de tout à l'heure. Et puis, pour les auditeurs qui se diraient, il y a un peu de soufflerie dans ma radio, c'est pas un problème de transistor, c'est la plaque de cuisson qui est en train de chauffer une casserole d'huile d'olive, vous évoquiez dans votre texte tout à l'heure, ces petites chips croustillantes, et ben, on va pouvoir les déguster dans un instant. Mais juste avant, la saveur de la sauge, son parfum, c'est peut-être l'un des plus mystérieux dans le carré des plantes aromatiques. S'il fallait poser quelques adjectifs sur cette saveur de la sauge, que pourrait-on dire, Xavier Mathias?
Alors moi, je vais être dur. C'est-à-dire que pour moi, la sauge, et j'ai très hâte de goûter, c'est pas du tout... Et
c'est ça qui est étonnant.
Oui, je suis pas du tout le seul dans ce cas-là. Hein, donc, j'ai qu'à moitié honte de l'avouer. Mais moi, j'aime pas trop la sauge officinale. J'ai hâte de goûter. Jamais je l'associe à du beurre, déjà, puisque il paraît que le mariage est très heureux. Pour moi, elle a une saveur camphrée médicamenteuse qui est toujours un petit peu gênante. Alors elles peuvent même être amères, je trouve, fraîches. Cette amertume va s'estomper si on la sèche. Mais malgré tout, je trouve que quand même, ça arrive très très fort.
Donc goût assez clivant, Déborah.
Ouais, non, je suis assez d'accord. Je suis pas fan non plus de sauge.
Dans cette émission, les amis, on s'est carrément trompé de casting ce matin. Ah oui, d'accord. Donc on a bien la confirmation que la sauge, on est carrément pour ou on est contre. Soit on l'adore, soit on l'aborde, globalement.
Je suis tout à fait d'accord dans le sens que moi je l'adore pour ce qui me concerne.
Pour lui avoir consacré un joli livre.
Consacré un livre. Et justement pour ça aussi, hein, parce que j'en entends parler souvent que les gens ne savent pas comment l'utiliser, quoi en faire. Il faut surtout savoir que la sauge, c'est un amer, donc ça a des pouvoirs très digestifs. Donc c'est parfait de l'associer avec des mets, une cuisine un peu grasse, longtemps cuisinée, très mijotée, et surtout aussi de la viande et des charcuteries. En Italie, on la met dans la porchetta, qui est le petit cochon de lait farci qu'on fait à Rome, qu'on fait tourner à la broche. Et c'est en fait dans le mélange d'herbes avec lequel on le farcit.
Puissant, balsamique, rude parfois, camphré, épicé, chaud, séveux, tenace, fort, aromatique, légèrement amer. Voilà tous les adjectifs que vous collez visiblement au parfum de la sauge, Alessandra. C'est dire si effectivement le parfum de la sauge est tout un monde. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est sa persistance à la cuisson. C'est un parfum qui tient.
Parce que contrairement à d'autres herbes aromatiques, comme par exemple le basilic, la sauge est délicieuse aussi cuite. Donc elle garde très longtemps sa saveur. Donc c'est très bien de la mettre justement dans des longues cuissons, dans des plats qui mijotent assez longtemps.
Xavier, Mathias, est-ce que il y a déjà des auditeurs qui nous alertent sur cette question? La sauge, alors on va voir que c'est tout un monde botanique avec ses espèces, ses variétés, etc. Mais toutefois, la concentration ou la puissance de la sauge peut varier selon la façon dont on la cultive et selon aussi les biotopes.
Oui, je pense clairement. Alors, c'est intéressant de parler de persistance à la cuisson parce que la sauge, elle a aussi cet énorme mérite d'avoir des feuilles persistantes. C'est-à-dire qu'on peut la récolter tout au long de l'année potentiellement, ça veut dire que son goût, sa saveur va changer à la fois tout au long de l'année et aussi en fonction de la région ou de la méthode de culture. Si on la cultive sur les sols très pierreux, très calcaires, là où elle donne de gros développements, mais que c'est ensoleillé, etc., son parfum va, à mon sens, être beaucoup plus concentré, ses principes actifs aussi.
Déborah.
Et moi j'ai une question d'auditeur, est-ce qu'il vaut mieux cueillir les grosses feuilles un peu à la base, qui sont un peu épaisses, un peu rugueuses, ou plutôt les petites sommités où on a de la feuille un peu plus tendre, où ça dépend des recettes ou...
Alors je vais vous donner un truc de paresseux, en fait on aime bien cueillir plutôt les pousses, les sommités, c'est parce que les feuilles sont plus tendres, mais aussi parce que ça nous permet en même temps qu'on cueille de faire une petite taille et de lui garder sa jolie forme. Moi je suis originaire d'une région en Touraine ou sur les plateaux calcaires, et je peux vous dire que la sauge, elle pousse, elle s'étale, elle est pas très jolie quand elle a 10-12 ans quoi, si on l'a pas taillée régulièrement.
C'est ça. Alessandra, je crois que vous allez devoir enfiler votre casque. Vous avez encore un peu le temps. Dites-nous, allez, faites-nous envie quand même, avec une petite recette qui va certainement surprendre et convertir notre ami Xavier Mathias à la sauge.
Ça, j'y compte bien, dans quelques minutes.
Avec salvia frita.
Ça va être les feuilles de sauge frites, la salvia frita. Absolument.
Salvia frita.
Et pour cette recette, moi d'ailleurs, je vais plutôt utiliser les grosses feuilles avec la tige, parce que c'est très important de laisser la tige accrochées aux feuilles, parce que ça va bien nous permettre de les passer dans la pâte et ensuite de les frire, de les attraper avec la main.
On vous retrouve dans un instant, vous enfilez votre casque, vous vous mettez debout devant la plaque de cuisson où commence à chauffer une casserole d'huile végétale. Ça va se passer, ça va faire du bruit à mon avis, du petit pshh. Mais en attendant, allez, une petite leçon de leçon de sauge.
Ah ouais, bravo. Alors, juste un truc, je suis désolé d'être un petit peu goteux, pénible. Voilà, plutôt que tige, vaut mieux dire pédoncule.
Ah, vous entendez, Alessandra, vous êtes corrigée.
J'ai pris les feuilles avec leur pédoncule.
Expliquez-nous la nuance.
La tige, ça va être une partie plus ligneuse qui porte les feuilles, et les feuilles sont accrochées, en général, dans certains cas plus rares, par le pédoncule à la tige. Voilà, c'est un détail.
Mais
que d'ailleurs, ces tiges, on peut bien les faire sécher, les réduire en poudre, les utiliser dans la cuisine comme une épice parfumée.
Donc pas que fraîche.
Pas que fraîche, sèche
également. On entendait Julie Andrieux dans l'accroche de cette émission nous dire que c'était plutôt frais, ça peut être aussi sec.
Oui, ça s'utilise.
Sec et frais.
Sec et frais, absolument.
C'est ça. Xavier Mathias, revenons à cette déclaration que vous m'avez faite. La sauge est un monde. Est-ce à dire qu'il y a un genre, il y a plein de genres, il y a une famille, des espèces, des variétés. D'ailleurs, on s'en mêle un peu les pinceaux dans cette classification botanique.
Ouais, on peut se la figurer comme un entonnoir. C'est-à-dire que, au plus large, on a la famille, donc les sauges sont l'Amiacée. Voilà, ça c'est vraiment le plus large. Après, on resserre un peu.
Donc l'Amiacée, les cousines de la sauge, c'est aussi le romarin, voilà, le thym.
Oh, un truc facile pour les identifier, ils ont la tige carrée. Voilà, après on se resserre un peu. On arrive sur le genre. Le genre, c'est Salvia, je sauve. Voilà, je guéris, je soigne.
Ah, Salvia, son étymologie romaine, c'est ça. Donc, c'est vraiment la plante qui sauve.
Ah oui, c'est pour ça qu'elle était surnommée aussi l'herbe sacrée. C'est pour ça qu'une autre sauge, la sauge clarée, était surnommée la toute bonne, parce qu'on les utilisait beaucoup pour leurs vertus.
On va parler des propriétés de la sauge, évidemment. Les Italiens, ils ont été un peu flemmards sur ce coup-là. Ils ont carrément pris le nom latin et
Nous, c'est salvia, donc c'est le nom très proche du latin.
Pour dire tout simplement sauge, vous avez carrément récupéré le nom latin.
Oui.
Parfait. Donc là, on en était au genre salvia.
Voilà, le genre, donc on a réduit un petit peu l'entonnoir. Après, on réduit encore un peu et on va sur l'espèce cette fois. Donc, pour les sauges, on a les plus connus, Salvia officinalis, mais on a aussi Salvia discolor, la sauge cassis, on a Salvia pratensis, la sauge des prés, etc. Donc, je reprends rapidement, famille, genre, espèce, et en fait la plus petite division, c'est la variété au sein de cette espèce. Voilà, pour schématiser, c'est ça. Donc le genre salvia, c'est 900 espèces. C'est
incroyable.
Colossal. Je vous parle pas des variétés, parce que là on va multiplier encore.
Donc c'est en ça que la sauge est vraiment un monde, Déborah Dupont.
Oui, j'ai Anne qui nous demande, est-ce que toutes les variétés justement sont comestibles?
Alors, j'ai posé la question avant de venir à Alix de Saint-Venant, qui est vraiment une grande spécialiste, et Alix me disait que, à sa connaissance, oui. C'est difficile, bien sûr, de tout chercher, d'être sûr de tout. Toutes les fleurs des sauges sont comestibles. Certaines ont des vertus très particulières. Je pense à Salvia divinorum, la sauge des devins, est franchement hallucinogène.
Alors attendez, hallucinogène, effet psychotrope.
Ah oui,
avec
réellement.
Cette sauge.
Ouais.
Elle est autorisée?
Ah non.
Ah
non.
Oui, elle est interdite.
Ah bah oui. Non,
parce que vous nous l'avez apporté. Alors.
Ouais, mais moi je collectionne, c'est pas pareil.
Ah, d'accord. Donc Xavier surtout... Mathias n'est pas hors la loi.
Surtout, j'utilise pas du tout les plantes de chaman. On les laisse aux chamans. Ça me paraît beaucoup plus prudent.
Vous êtes un curieux, un collectionneur.
Ah oui, elle est très très belle, tige très carrée, elle est tout à fait étonnante. Après, tiens, une autre sauge qu'on va consommer sans savoir forcément que c'est une sauge, c'est Salvia hispanica, le chia, le fameux grain de chia, c'est une sauge.
Non.
Voilà, et la région des Chiapas, c'est là où pousse le chia. C'est pour vous dire l'importance de cette culture.
Alors cette graine avec cette espèce de mucilage, qui est très à la mode dans la cuisine, notamment végétarienne et végane, c'est donc appartient donc à la famille des sauges.
Ah oui. Donc on reprend rapidement. Donc la famille, c'est l'Amiacée, le genre Salvia, l'espèce Hispanica.
C'est ça. Incroyable, c'est franchement intéressant. On va continuer évidemment à se balader dans le potager portatif de notre ami Xavier Mathias. On va goûter aussi des choses, parce que la sauge est effectivement un monde passionnant. Mais on va passer à la recette d'Alessandra Pierini. Est-ce que vous êtes prête?
Je suis prête. L'huile est chaude. On vient de faire chauffer justement pour cette recette. Il faut faire chauffer une petite casserole avec de l'huile pour friture. Il faut qu'elle arrive aux alentours de 160-170 degrés.
On a le droit d'y plonger un petit thermomètre de cuisson?
De cuisson, oui, ce qu'on vient de faire pour essayer de tout maîtriser. Ensuite, on ramasse donc quelques feuilles de sauge, environ une vingtaine pour un apéritif pour 3-4 personnes, avec le pédoncule, comme je viens d'apprendre. Et ensuite, on mélange dans un bol 50 g de farine avec une cuillère d'huile d'olive, quelques gouttes de citron, environ 5 ou 6 gouttes. Et ensuite, et très important, on mélange soit 10 centilitres d'eau pétillante très froide, soit de la bière, mais toujours bien glacée. C'est ce que je vais faire.
Expliquez-nous la raison. Pourquoi faut-il un liquide bien froid pour cette pâte à beignet?
Déjà, le pétillant permet avec l'anhydride carbonique dans l'eau et dans la bière à rendre la friture plus croquante. Mm-hmm. Et les utiliser froides sert pour moins hydrater les amidons présents dans la farine.
D'accord.
Et c'est une astuce qui rend la pâte plus sèche après friture et grâce aussi au choc thermique qui se produit au moment de la cuisson.
Là, on entend le bruit du fouet dans le petit cul de poule. Vous mélangez tous vos ingrédients. Donc, on est bien d'accord que ce n'est pas une pâte à beignets qui se prépare à l'avance. Il faut vraiment la préparer minute.
Il faut vraiment la préparer sur le moment. Et là, d'ailleurs, j'ai gardé avec un pack gelé donc, de l'eau en espérant que tout marche comme il faut. Je mélange. Là, ma pâte, elle est jolie. Elle n'a pas de grumeaux.
Il faut qu'elle ait une texture un peu crémeuse.
Un peu comme une pâte à crêpes, en fait. Oui. Et on voit tout de suite qu'il y a des bulles à la surface. Et ça veut dire que l'eau pétille bien. Il faudra choisir donc de l'eau avec des grosses bulles.
Parfait.
On ne va pas donner la marque, mais bon, tout le monde connaît. Il y en a une italienne, une française.
Donc, oui, d'accord. Bon, général, Perrier ou San Pellegrino, voilà, comme ça, on se fait pas d'ennemis.
Voilà, absolument. On trempe, tout simplement, en gardant la feuille par le pédoncule dans cette pâte. Je répète, comme ça je retiens.
Donc là, vous faites trempette avec cette large feuille dans la pâte à beignets.
Dans la pâte à beignets. Je la plonge dans l'huile.
Et là, on entend le bruit magique du...
Voilà, on va bien monter...
Ça grésille.
Ça grésille. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple.
Hein. Incroyable.
Mais il faut le faire à la dernière minute. Voilà. Ça, une deuxième dans l'huile.
Ça va être combien de temps à peu près de friture dans le bain d'huile?
Juste le temps, là je vais en mettre deux à la fois. Je vais le retourner une fois et ça y est déjà, il faut compter 40 secondes environ. Ouais, il y en a deux, voilà. Une,
et là
je la sors.
Vous aidez d'une écumoire.
Je mets d'un écumoire. J'ai préparé donc, une écuelle avec du... papier absorbant pour éviter donc que pour absorber un petit peu. Il ne faudra pas les tasser, sinon là.
Moi, je vous annonce tout de suite que le premier destinataire de cette sauge frite, c'est Xavier Mathias.
Ah, bah oui,
on va lui demander son avis, le couteau sous la gorge. Ah, vous mettez une petite pinte
et
de sel.
Et je mets une petite pointe de sel, oui, absolument.
Alors, ça y est, ça arrive.
Ah,
mais c'est vraiment.
C'est joli.
C'est joli, hein.
Ah ouais, c'est très beau.
Voilà, merci. Je continue. Là, l'huile, elle est bien chaude, donc ça va. Ça croustille. Là, celle-ci, elle doit être encore plus croustillante. C'est important que ça soit croustillant.
Mmh. Ah oui, c'est bon.
Ah, c'est bon.
Ah, c'est très bon. C'est très, très bon. Vraiment.
Ah oui, c'est bon.
Xavier, vous n'êtes pas obligé parce que je suis là.
Non, mais ça me réconcilie avec la sauge.
Et la pâte à beignets croustillante apporte du confort, a un goût qui est assez prononcé, mais on a l'impression que cette cuisson atténue quand même le goût de la sauge et elle rend beaucoup plus agréable.
C'est ça. Et puis le fait que ça soit croquant, aussi, c'est vraiment très agréable. Il faut les laisser. Voilà, là, l'huile, elle est bien, bien chaude. Celles-là, je vous les ferai passer. Elles vont être délicieuses.
On a vraiment la preuve, là, en direct, que cette salvia frita, c'est vraiment pas compliqué. Et je vous confirme qu'on dit bien une écumoire.
Une écumoire. Hein,
oui, c'est moi qui me suis trompé, je pense, tout à l'heure. Une. C'est bien un mot féminin du jargon culinaire. On va continuer, évidemment, à déguster. C'est... sauge frite, ces feuilles de sauge. Dans un instant, on va découvrir d'autres sauges étonnantes avec notre ami Xavier Mathias, qui va surtout nous expliquer aussi les propriétés assez miraculeuses de cette plante aromatique. Et puis, on aura, bien entendu, la chronique de Déborah Dupont qui cultive la sauge, ou qui la cuisine plutôt légèrement à l'anglo-saxonne.
Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit.
Bonne nuit.
Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît.
Il aurait dû nous écouter.
Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours. je m'en vais. La recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dit, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la Fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez, rêvez, moi je prends ma casquette, puis deux ou trois cigarettes dans le paquet et je m'en vais, je m'en vais. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois, plus tard quand vous serez réveillé. Pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer.
Compagnon, feu Chatterton et attention, feu vif dans le studio dont on va déguster. La sauge est au menu en ce dimanche.
France Inter, on va déguster.
Attention, petit message de Rémi à l'attention de Xavier Mathias. Ni tige, ni pédoncule, il faut parler de pétiole.
Mais oui, bien sûr, je suis vraiment honteux, je vous présente toutes mes excuses.
Alors, Rémi, voilà. Rémi est très attentif derrière son poste de radio.
Et ça tombe très bien, c'est au moment de vouloir donner une leçon de vocabulaire que boum, on se prend les pieds dans le tapis. Mais oui, bien sûr, non, je suis vraiment honteux. Voilà, on va parler de pédoncule, c'est pour les fleurs et les fruits, c'est en ça. Fait. Hein. Et donc les futurs fruits. Oui, je suis vraiment confus, je vous présente toutes mes excuses.
Aucun problème.
Je savais que la sauge, de toute façon, se vengerait.
Oui, c'est ça.
Et voilà.
Voilà, vous l'adorez en tant que maraîcher et curieux du potager. Vous l'aimez un peu moins gustativement. On va voir si une autre recette, celle en l'occurrence de Déborah Dupont, peut continuer à vous convaincre, vous, Xavier Mathias, et nos amis auditeurs et auditrices à aimer la sauge. Hein, Déborah Dupont ? Alors, allons-y.
Bah, lorsque j'ai commencé à préparer cette émission, c'est vrai que ma première idée, je me suis souvenu que dans les livres de Jamie Oliver, généralement, on trouvait des recettes de sauge. Il en utilise beaucoup. J'ai eu peur que ça fasse doublon avec l'Italie d'Alessandra Pierini, puisque Jamie est quand même très très tourné vers l'Italie. Et moi, c'est une cuisine, effectivement, que je connais et je maîtrise assez mal. Donc, j'ai continué mes recherches. Et là, je suis tombée sur le livre de Trish de Sein, le dernier qui vient de paraître. Donc, c'est une autrice que je suis depuis quasiment une vingtaine d'années. J'ai énormément de ses livres à la maison. Moi, c'est elle qui m'a fait découvrir la cuisine. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, ce que je vous propose, c'est vous goûter d'abord et je vous dis après ce que c'est.
Alors, on y va. C'est parti.
Évidemment, j'ai pris une recette de boulettes, hein, puisque les boulettes, vous savez tous que j'aime beaucoup ça. Et donc, là, il y a quand même une petite particularité, outre le fait que ça utilise de la sauge. Et j'aimerais, en fait, voir si vous allez découvrir quelle est la spécificité de ce plat. Vous reconnaissez quoi dedans
Il y a
des haricots.
Il y a des haricots, ça c'est sûr. Un petit ragoût de haricots. Il n'y a pas de protéines animales.
Zéro protéine animale. C'est-à-dire que Trish de Sein, qui nous avait habitués avec ses plats très justement roboratifs, des mijotés, des choses comme ça, en fait, elle a trouvé l'amour l'année dernière, elle a retrouvé, et avec un homme vraiment vegan. Et donc elle a été obligée de se plonger dans cette cuisine qu'elle ne connaissait pas du tout. Et nous a proposé un livre qui s'intitule « La bonne cuisine, végie et végane d'une omnivore réticente mais amoureuse ». Preuve que l'amour peut amener à faire des miracles.
Et à boycotter les produits issus des animaux.
Voilà, donc là en fait les boulettes c'est très simple. 80 grammes de farine, 40 grammes d'huile d'olive ou de beurre végétal, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de sauge fraîche hachée.
Voilà.
Ça fait une panade, on rajoute de l'eau très froide comme Alessandra pour sa pâte à beignets. On obtient une panade qui ensuite se modèle très très facilement. en boulettes, et les boulettes vont cuire sur un ragoût. Alors un ragoût qui est fait avec beaucoup d'oignons, des oignons qu'on va faire mijoter longuement, ce qui donne ce côté suave en bouche, ce qui donne un côté presque carné d'ailleurs, des carottes, du céleri, les haricots blancs. Vous mettez vos boulettes dessus et ensuite vous passez au four pour une vingtaine de minutes. Les boulettes vont gonfler à la cuisson. Parce qu'elles étaient toutes petites à la base, hein. Elles étaient de la taille d'une balle de ping-pong. Ça gonfle à la cuisson et franchement, j'ai trouvé le résultat assez bluffant.
Il est tout à fait étonnant, c'est nourrissant, parfumé, c'est consistant, c'est équilibré. Ça se passe de surcroît de protéines animales. C'est vraiment une recette étonnante, vous en pensez quoi,
Xavier? Encore une fois, là c'est la deuxième fois de la journée, c'est quand même beaucoup. Je me dis que la sauce ne me pose pas de problème, donc il y a un truc là.
Non mais en plus là, dans ces boulettes, c'est assez délicat, ça vient juste... se présenter d'une façon très discrète, mais qui est bien présente aussi. Et ça va très bien, d'ailleurs, la sauge avec toutes les légumineuses. Donc, vous avez mis justement, Déborah, des haricots
blancs.
Parce que ça aide, bien sûr, la digestion pour toutes les légumineuses. Surtout en Italie, on l'utilise aussi avec les haricots dans la sauce à l'uccelletto, qui est typique toscane, avec des haricots qui sont mijotés en sauce avec de la tomate et beaucoup de sauge.
Quand ça évite de faire des vents ou des flatulences, ça porte un nom...
Oui, c'est
la propriété.
Alors, j'ose plus parler là.
Anti-carminative.
C'est ça. Anti-carminative. Ouais.
Et vous nous rappelez les références du livre d'Autriche de Seine, chère Déborah.
Donc, la bonne cuisine végie et végane d'une omnivore réticente mais amoureuse aux éditions Hachette Cuisine.
Et on retrouve sa recette sur franceinter.fr à la page On va déguster. Un grand merci, beaucoup de réactions de nos auditeurs et auditrices sur notre mail On va déguster à radiofrance.fr. Et sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Tristan à Valence, dans la Drôme, nous écrit: ma grand-mère préparait chaque année du vin de sauge. J'allais en boire quelques gorgées en cachette dans l'armoire du salon. Je n'ai pas sa recette. Auriez-vous une recette de vin de sauge?
Alors oui, moi j'en ai une. C'est il faut prendre 1 litre de vin blanc, 80 grammes de feuilles de sauge. Mm-hmm. Ensuite, ce vin, on le fait bouillir avec les feuilles de sauge. On les laisse ensuite infuser pendant une bonne demi-heure. On filtre, on met un petit peu de sucre de canne ou alors 2 cuillères de miel, on met au frais, on consomme par petits verres ou quelques cuillères lors d'un repas copieux ou alors comme apéritif ou digestif.
Et ben voilà, parfait, on va essayer de vous mettre cette recette sur notre site. Ouais. Ah, vous brandissez également une bouteille, Déborah Dupont.
Oui, mais alors moi, ce sera de la liqueur de sauge, ce qui permet de répondre à la question de Christian Luc. Donc la liqueur de sauge, en fait, vous faites infuser tout simplement des feuilles dans de l'alcool pour fruits. Pendant 1 mois. Ensuite, vous filtrez et vous rajoutez un sirop de sucre. Et donc, on obtient une liqueur qui, effectivement, a des propriétés médicinales et qui peut aussi se consommer en cocktail allongé avec une eau pétillante.
Vous nous en versez une petite lichette?
On va faire ça.
Allons-y, transition toute faite vers les propriétés de la sauge. Il y a énormément d'auditeurs qui nous signalent effectivement les propriétés. Alors, j'aime pas employer le mot de miraculeux parce que c'est la vie réelle et c'est le potentiel végétal. C'est dans la nature. Mais il est vrai que les propriétés de la sauge sont assez impressionnantes. J'en profite pour dire, Xavier Mathias, que vous êtes le co-auteur avec votre compagne Eve Guignard, du livre Elle pousse, elle soigne 50 plantes à cultiver pour leurs bienfaits reconnus. C'est aux éditions Larousse. Et on y trouve notamment des développements assez complets sur la sauge qui décidément a toutes les vertus.
Ben oui, en fait, et là-dessus, je parle sous le couvert de Eve Guignard qui connaît bien mieux que moi les vertus des plantes. Et moi, dans l'écriture de cet ouvrage, j'étais vraiment sur de la rédaction plus pratique, plus jardin. En fait, oui, la sauge, elle est, et en plus ça, c'est une plante qui est reconnue, qui est inscrite sur la liste de la NSM pour les plantes dites médicinales, qui a même fait l'objet d'une monographie de contrôle. Enfin, voilà. Là, on est sur quelque chose de tout à fait vérifié, entre guillemets, sérieux, on pourrait dire. Donc oui, la sauge, c'est la plante de la digestion. Clairement, on la retrouve effectivement avec les haricots, avec les viandes un petit peu grasse. C'est aussi une plante qui contient des phytoestrogènes. Donc, c'est une plante de la femme, on va dire, entre guillemets. Et c'est aussi une plante, attention, parce que ça marche souvent dans...
Même si une auditrice nous précise, déconseillée aux femmes enceintes.
Voilà, pardon.
Déconseillée aux femmes atteintes d'un cancer du sein. C'est Sylvie qui nous dit ça.
Alors, je pense que... Et là, il faudrait demander à Eve Guignard, parce que moi, je suis pas capable de répondre. Mais je pense que le fait qu'elle ait des phytoestrogènes ou de la thuyone hein, aussi. Hein. Attention, l'huile essentielle de sauge contient de la thuyone, donc elle peut avoir des effets exactement contraires à ceux escomptés. Donc toujours, toujours bien revenir sur des choses sérieuses, établies, bien demandées, et pas ces plantes ont un vrai pouvoir.
La phytothérapie qu'on pratique à la maison, il faut y aller quand même avec des connaissances et beaucoup de prudence, Déborah Dupont.
Oui, tisane de sauge pour les douleurs de règles, c'est avéré, ça fonctionne bien pour les soulager. Mm-hmm. Et la sauge aussi, ça coupe l'effet de la lactation. Donc quand on allaite, là au contraire, si on veut continuer d'allaiter, il faut surtout pas consommer de la sauge. Si on veut arrêter l'allaitement, moi c'est vrai que j'avais utilisé ça pour mes deux enfants, ça permet vraiment de diminuer l'allaitement et de ne pas avoir ces douleurs en fin d'allaitement. Enfin voilà, c'est. Mais faites-vous accompagner, effectivement, les pharmaciens, les sages-femmes sont là pour vous guider.
Et on a des questions d'auditeurs, cher Xavier, sur la sauge. Est-ce que ses propriétés médicinales varient selon les genres, les variétés? Là, on est en train de parler de la sauge officinalis.
Voilà, c'est Salvia officinalis. Après,
la sauge la plus commune.
Voilà. Après, il y avait une autre sauge qui était très cultivée, très employée, c'est la sauge sclarée, qu'on a appelée la toute bonne, hein, d'ailleurs, qui est utilisée maintenant plus en parfumerie comme fixateur de parfum. Après, on a plein de sauges, la sauge cassis, par exemple, salvia discolore.
Elle est là,
tout,
elle est étonnante. Ouais, alors ouais, là, on frotte la feuille et on est vraiment...
Bonbon au cassis.
C'est ça.
C'est tout à fait impressionnant.
La sauge ananas, moi j'adore avec ses avec ses hampes florales qui sont d'un rouge vif en plus, et elle fleurit l'hiver, donc c'est absolument magnifique.
Et quand
potager,
on frotte
j'adore.
La feuille, ça sa feuille un peu large et velue, là aussi parfum d'ananas frais absolument spectaculaire. Sauf que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cuisiniers qui se sont cassés les dents sur ces sauges cassis, ananas. C'est pas toujours facile de fixer leur saveur en cuisine.
Voilà, sauge ananas, on a du mal à la fixer. Donc là, j'en ai ramené de la séchée. C'est tout à fait étonnant. La plante sèche est vraiment très parfumée. Néanmoins, on a du mal à fixer en cuisine, toujours dans un corps gras. Et la sauge cassis se fixe bien, elle, hein, pour les entremets, on la cuit dans du lait, etc. Ça se fixe très bien, ce parfum-là. Petite fleur pourpre, presque noire. Une des fleurs les plus sucrées que je connais, c'est tout à fait impressionnant.
C'est un bon la sauge.
Ah oui, c'est vraiment étonnant.
Et en plus, il n'est pas si compliqué, j'en ai sur mon balcon pour ne rien vous cacher.
Ouais.
Et je sais même pas si c'est pas vous qui m'avez donné le plan.
C'est bien possible.
Il y a toujours des cadeaux à planter.
Et tout à fait étonnante pour la sauge cassis, une fleur presque noire, une tige un peu collante, un peu poisseuse, et une floraison très tardive. Donc c'est une super plante.
Et moi, elle est encore en fleur en ce moment sur mon balcon parisien. Alessandra, on passe à la deuxième recette. Alors là, attention, on parle vraiment d'un mariage d'amour dans la cuisine italienne. C'est peut-être bien l'une des recettes les plus emblématiques du répertoire italien.
C'est burro e salvia. Là, ce sont les gnocchi au beurre et à la sauge.
Burro.
C'est le beurre.
Et salvia.
C'est donc la sauge.
Beurre et sauge. Comment on s'y prend, chère Alessandra?
Alors là, d'abord, donc, dans le livre, c'est les gnocchi à la romaine dont je donne la recette, qui sont un peu plus élaborés, qu'il faut passer au four. Donc, on ne pouvait pas le prévoir pour le plateau. Ici, j'ai... fait des gnocchi à la pomme de terre, dont nous avons la recette, c'est fait avec des pommes de terre bouillies, écrasées, mélangées avec un œuf, un tout petit peu de farine. On les roule, on les pétrit comme une pâte, on les roule comme un boudin, on découpe des tout petits gnocchi. Ensuite, on les fait cuire juste 2 minutes à l'eau bouillante.
C'est ça, alors il y a une grande casserole d'eau bouillante salée.
Ça y est, d'eau bouillante salée.
C'est ça.
Ça, c'est très important. Et ce que j'ai toujours vu chez moi, chez mes parents, chez ma maman surtout, quand elle mettait la casserole d'eau bouillir sur le feu, en même temps, elle la couvrait avec une poêle, avec le beurre nécessaire pour faire l'assaisonnement. Donc, dans ce cas, une bonne assiette, environ 30-40 grammes de beurre. Uh-huh. Et une dizaine de petites feuilles de sauge, ou 4 ou 5 grosses, découpées finement. Et si elles sont petites, on peut les laisser entières. Un petit peu de sel, du poivre. Et toujours, ce que je vais faire, un tout petit peu de noix de muscade, que je vais râper.
Qui vient de tomber, la noix vient de tomber dans le beurre.
Dedans, hein, je dis ça comme ça. Ça va bien parfumer. Voilà. Et donc, en même temps, le beurre fond, mais fond doucement. La sauge infuse dans le beurre.
Une infusion douce.
Douce, parce que ce qu'il ne faut surtout pas faire dans cette recette, c'est brûler le beurre. il faut qu'il reste vraiment bien blanc et transparent. Et la sauge, qui est le temps, vraiment, au moins une dizaine de minutes, de bien infuser.
J'imagine que la sauge trop chauffée doit aussi développer de l'amertume. C'est pas ce qu'on recherche.
C'est pas du tout. Là, il faut que la sauge, vraiment, elle parfume. Elle va être enveloppée avec le beurre. Donc, un peu de sel, un peu de poivre, de la noix de muscade. Ça y est, mes gnocchis sont remontés à la surface. C'est bien pratique parce que le gnocchi de pomme de terre, comme ça, ça cuit juste deux petites minutes. Je repasse donc ma poêle sur le feu. Ensuite, je mets les gnocchis dans la poêle, dans le beurre et dans les feuilles de sauge. J'arrête le feu. Je les enveloppe.
Ah oui, c'est ça. On a un beurre enveloppant, il y a le parfum un peu résineux, camphré de la sauge qui vient nous titiller les narines.
Et puis, comme on est italien, bien sûr, et comme on met très souvent du parmesan sur les pâtes, on en met aussi dans les gnocchis. Et surtout, parmesan, beurre et sauge, c'est un trio vraiment gagnant dans l'assiette.
Une poignée de parmigiano reggiano et on est en train de dresser cette assiette qui là encore va atterrir comme par miracle sous le nez de
voilà.
Xavier Mathias. On est en train de le torturer ce matin avec la sauge. On a plein de réactions intéressantes d'auditeurs. Il y a Eric par exemple qui propose une gelée de fleurs de sauge avec un peu d'agar-agar. Il en fait des tartines le matin ou pour mieux accompagner aussi des coquilles Saint-Jacques. Tiens, voilà qui est très intéressant. Une tradition de Provence dont vous avez peut-être entendu parler, c'est Christian qui nous en parle. Alessandra, eau de fleurs de sauge macérée dans de l'alcool pour fruits. Eau de fleurs de sauge macérée dans de l'alcool pour faire.
Pour faire un alcool.
Ah, pour
fruits,
digérer, donc. Pour désinfecter les plaies. Alors là, on est carrément au rayon médecine douce. Et puis enfin, linguiné à la crème de sauge flambée dans une roue de fromage de bufflone.
Bon, ça, disons, c'est peut-être de la nouvelle cuisine.
C'est Antoine.
Ça, j'ai jamais mangé ça.
Mais
pourquoi
pas. Réinterprète le répertoire italien.
Dans tous les cas, la sauge va très bien avec quelque chose de gras, de fromager, d'enveloppant. Elle est délicieuse avec les fromages de chèvre frais. D'ailleurs, c'est comme ça que je mangeais très souvent en Provence.
C'est ça. Alors, qu'est-ce que, petit commentaire, ces petits coussinets, gnocchi, salvia, burro et salvia?
Alors là, pour être honnête, je trouve que la sauge est passée un petit peu derrière. Donc c'est comme ça qu'elle me dérange le moins, en fait, hein, finalement. Et en fait, je trouve que le parmesan est vraiment très très présent dessus. Je pense que c'est un fromage de très très bonne qualité. Et sa première qualité est probablement d'être plus puissant que la sauge. Enfin, à mon avis, plus puissant que la sauge, j'ai trouvé.
Déborah, vous en pensez quoi de ces gnocchi?
Je suis assez d'accord avec Xavier. Là, on arrive, moi, sur ma limite à ma tolérance à la sauge.
La sauge, elle est juste là pour parfumer hein, dans cette recette. C'est vraiment... C'est pas, si vous mangez toute l'assiette, c'est parce que vraiment, vous allez avoir cette arôme assez subtil que justement est présent mais n'est pas dérangeant.
La recette de ces gnocchi di patate est sur franceinter.fr à la page on va déguster avec cet accord de sauge. Et puis on nous dit que sec ou frais, la sauge ça peut être les deux. Hein. Et pour sécher de la sauge, Xavier, vous avez fait un truc.
Je vous donne les conseils d'Eve Guignard. Vous les faites sécher surtout à l'obscurité, jamais à la lumière, dans un endroit sec et plutôt ventilé. Et après, vous les mettez dans un bocal hermétique. Ce bocal hermétique, vous le remettez à l'obscurité.
Très bien, et ben on retient la leçon de séchage et ça marche très bien avec les feuilles de sauge. La sauge, 10 façons de la préparer aux éditions de l'Épure. Un super petit bouquin où figurent ces deux recettes. Alors les gnocchi à la romana, mais burro e salvia et également les feuilles de sauge frites, hein, Alessandra.
C'est ça, les feuilles apéritives.
Voilà, un très joli livre aux couleurs sauge. On l'a dit, la semaine prochaine, on met les voiles vers Ajaccio pour explorer la cuisine du sud de la Corse. Et rien de mieux que de dresser le couvert depuis les nouvelles halles gourmandes d'Ajaccio. Si vous voulez assister à l'enregistrement de cette émission, ça se passe eh bien ce vendredi à partir de 9h au Nouvelle Halle à Ajaccio. Et je voudrais aussi signaler à nos amis corses et ajacciens que je vous retrouverai ce même vendredi à partir de 17h30 à Ajaccio pour dédicacer avec toute la bande. Il y a Alessandra Pierini, vous en serez. Notre Bible, on va déguster l'Italie aux éditions Marabout et Radio France. Ça se passera au chemin des Vignobles, l'établissement de Nicolas Stromboni. Toutes les informations sur franceinter.fr à la page on va déguster. À dimanche prochain si vous avez encore faim.